Vous écoutez « On lit pour vous ».
Le cri du cœur d'une petite femme ordinaire. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 11 avril 2025 dans Urbania. À presque 80 ans, Rachel Garand cherche un job moins rough. Je suis une petite femme ordinaire qui veut juste finir ses jours comme il faut. Assise à la table de cuisine de son modeste logement à Châteauguay, Rachel Garand est submergée d'amour depuis la publication, il y a quelques jours, d'un message sollicitant de l'aide pour se trouver un emploi moins difficile, vu son âge. À l'aube de ses 80 ans, Madame Garand a lancé cette bouteille à la mer virtuelle qui a non seulement ému des milliers d'internautes, mais a aussi braqué les projecteurs sur la réalité de certains aînés qui doivent encore travailler pour joindre les deux bouts à des années-lumière d'une retraite dorée sous le soleil. Une réalité dont Mme Garand témoigne aux premières loges et qui croule sous les histoires de gens dans sa situation. Je compatis beaucoup avec eux. À nos âges, quand on a juste la pension et les rentes, on n'a pas assez pour la vie d'aujourd'hui. On devrait rester à la maison pour tricoter, mais moi, j'ai des dettes à rembourser, monsieur, raconte d'une voix timide mais protocolaire celle qui déplore avoir travaillé toute sa vie pour finalement se retrouver presque sans le sou. Déplore est un grand mot, puisqu'une chose qui saute vite aux yeux dans la petite salle à manger jouxtant le salon, c'est que Rachel Garand refuse de se plaindre. Ça lui a pris tout son petit change, juste pour publier son cri du cœur sur Facebook, craignant donner l'impression de quémander. Ça m'a demandé du courage. J'ai mal dormi et j'ai pleuré d'avoir à solliciter de l'aide. Mais aujourd'hui, je l'accepte, souligne cette femme fière qui, avouons-le, ne fait pas son âge. Un constat qu'elle partage. J'ai de la misère à réaliser que je vais avoir 80 en octobre. J'ai pas de teinture et mes cheveux commencent à grisonner, s'enorgueillit-elle. Faire le tour du web en voulant être discrète. Louangeant sa famille qui l'aide du mieux qu'elle peut, c'est justement de peur d'ambitionner qu'elle s'est tournée vers les réseaux sociaux pour demander un coup de main. Bénéficiant d'un emploi à temps partiel pour une compagnie spécialisée en démonstration-dégustation de produits chez Costco, elle cherche un travail moins dur sur ses jambes et son dos. « J'aime ce travail, monsieur. Les gens sont super gentils et me donnent de bons horaires. Mais je trouve ça difficile d'être debout longtemps, confesse-t-elle. Le plus ironique, c'est qu'en ne voulant pas embêter sa famille avec ses recherches, elle a plutôt fait parler d'elle partout au Québec, avec plus de 6000 partages et plusieurs entrevues accordées depuis. Avant, quand je faisais des publications, pas plus que 30-40 personnes les voyaient. Mais là, c'est rendu international, monsieur. Je suis époustouflé, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un GoFundMe pour repartir à neuf. » Si son message a fait le tour du web, c'est parce que Rachel s'est fait épauler par Sébastien Goulet, un coach d'affaires qu'elle suivait sur les réseaux sociaux et avec qui elle était déjà en contact. Ce dernier, qui a notamment dirigé le Sky Spa de Québec et quelques bars, aurait été touché par l'histoire de Rachel. On s'écrivait à l'occasion, et je lui avais dit que je m'étais enlisé dans un banc de neige en revenant de travailler lors de la dernière grosse tempête. Il ne connaissait pas mon âge, alors quand je le lui ai dit, il s'est exclamé « Hein? Vous travaillez encore? » C'est là qu'il a été mis au fait de la situation de précarité dans laquelle se trouve la dame, malgré les chèques de pension des gouvernements. « J'ai été arnaqué. J'ai aidé des gens avec de l'argent que je n'avais pas et je ne suis plus capable de rembourser le minimum de mes factures de carte de crédit avec le taux d'intérêt actuel », résume Mme Garand, qui calcule avoir à ce jour cumulé près de 25 000 $ de dette. Une posture qui l'oblige à travailler, ce qu'elle fait 3 jours par semaine au salaire minimum. J'ai besoin de manger et de mettre du gaz dans mon char, monsieur. » Dans l'espoir d'effacer cette dette et lui permettre un nouveau départ, Sébastien Goulet a lancé en son nom une campagne de sociofinancement dont l'objectif est de ramasser 28 000 $. En ligne depuis le 1er avril, un peu plus de 17 000 $ ont jusqu'ici été amassés. Un peu d'espoir au bout du tunnel. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement un peu sourcillé devant le rôle de bon samaritain désintéressé d'un homme qu'elle connaît à peine, rencontré par le truchement de Facebook. J'ai posé la question à Rachel Garand, qui m'assure avoir pleinement confiance en Goulet. Il ne touchera rien, il met son nom en jeu pour m'aider et il fait tout ça bénévolement, monsieur, m'assure-t-elle avec aplomb. D'ailleurs, le principal intéressé m'a confirmé son intention de transférer la totalité des dons à Mme Garand. Quand j'ai constaté, en regardant son bilan financier, qu'elle faisait juste payer ses intérêts, j'ai eu l'idée d'une campagne de sociofinancement pour l'aider à repartir à zéro, souligne Sébastien Goulet, qui s'occupe aussi de sa grand-mère de 98 ans. Je ne retire pas un dollar là-dessus, sauf une tarte au bleuet, ajoute-t-il. Je ne m'ennuie jamais, j'ai trop d'ouvrages. Madame Garand a reçu une foule de propositions, plusieurs en lien avec des CLSC pour prendre soin d'autres aînés. Quand je la taquine sur le fait qu'elle risque de se ramasser aidante naturelle auprès de gens plus jeunes, elle se braque un peu. Ça ne me dérange pas, monsieur. Si elle se considère en forme, Rachel Garand ne peut pas accepter les offres pour du grand ménage. Dans son logement encombré de bibelots et de photos de famille, elle se rappelle avec nostalgie d'emplois occupés dans le passé. « Pendant plusieurs années, j'ai fait de la pâtisserie maison. Mais là, mon logement est trop petit et je n'ai pas de gros congélateur pour entreposer ça », explique Mme Garand, qui habite l'immeuble depuis 3 ans. J'étais au départ au 3e étage, mais j'avais de la misère à monter mes commissions. Ma sœur m'aidait parfois. Quand ce logement au 1er s'est libéré, j'ai sauté dessus. Aînée d'une famille de 13 enfants, peu scolarisée, c'est lorsqu'elle a atteint la quarantaine qu'elle a étudié le secrétariat et la comptabilité pour gagner sa vie. Pudique sur sa situation familiale, elle glisse seulement au passage n'avoir jamais été mariée et n'avoir pas eu d'enfant. « Je ne m'ennuie jamais, j'ai trop d'ouvrages. J'ai fait du bénévolat toute ma vie. » Mais son véritable plan de retraite se trouve sur une table, derrière nous dans le salon. Les yeux de Rachel s'illuminent lorsqu'elle parle de sa passion pour le vitrail. Elle me montre le travail entrepris pour enjoliver 2 portes françaises. Je fais ça pour une amie, mais ça me demande beaucoup de temps que je n'ai pas présentement à cause du travail, soupire-t-elle en déroulant le croquis de son projet. Du temps pour vivre. C'est ainsi que l'octogénaire résume ce qui manque à son bonheur avant d'amorcer la dernière étape. Du temps pour tricoter, du temps pour faire du bénévolat, du temps pour faire du vitrail. J'aimerais ça, aller m'asseoir sur un banc à l'île Saint-Bernard pour regarder l'eau. Monsieur. Non, madame, ce n'est pas trop demandé. C'était Le cri du cœur d'une petite femme ordinaire, un texte d'Hugo Meunier, paru le 11 avril 2025 dans Urbania.
Des centaines de personnes rassemblées pour la journée de la robe rouge. Un texte de Sarah Xenos avec des informations d'Avery Zingel, paru le 6 mai 2025 dans Espaces autochtones. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées un peu partout dans le Nord pour souligner la 15e journée de la robe rouge, commémorant ainsi la mémoire des femmes, des filles et des personnes de LGBTQI+, autochtones, disparues et assassinées. À Whitehorse, c'est au son des tambours que plus de 200 personnes ont marché de Riverdale jusqu'au centre culturel Kwanlin Dun au centre-ville, en longeant le fleuve. Le long du chemin, des affiches sur lesquelles on pouvait lire les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation avaient été plantées. Chaque année, Diane Lilly de la Première Nation Little Salmon Carmax marche à la mémoire de sa sœur Tina, qui est disparue sur le bord de l'autoroute près de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, alors qu'elle avait 20 ans. Elle a juste disparu et elle n'est jamais revenue. On n'avait pas de traces pendant 6 mois. J'appelais la GRC pour qu'ils la retrouvent, mais il n'y avait rien. Pas de traces, raconte-t-elle. 6 mois plus tard, le corps de sa sœur a été retrouvé dans une forêt à proximité. La famille a cependant dû attendre 16 ans avant que le coupable ne soit trouvé et arrêté. À toutes les familles qui cherchent encore leurs proches disparus, Diane Lilly n'a qu'un message. Ne baissez jamais les bras, même si ça fait 30 ans. N'abandonnez pas. Il n'y a pas d'affaires non résolues au Canada. Un simple indice peut faire relancer une enquête, souligne-t-elle. Des marches similaires ont eu lieu notamment à Dawson et à Watson Lake, ainsi qu'à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Sarah Gargan, de la Première Nation des Gagodjé, faisait partie de ceux qui ont marché dans la capitale ténoise. C'est avec le cœur très lourd, à la mémoire de sa petite-fille, morte l'année dernière à Edmonton, ainsi que pour la cousine de celle-ci, qui est toujours portée disparue, qu'elle a participé au rassemblement. « Je prie chaque nuit pour que justice soit rendue pour ma petite-fille », dit-elle, en précisant que la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances entourant son décès. Au Yukon, la ministre responsable de la Direction de la condition féminine, Janie McLean, a indiqué que les efforts se poursuivent pour concrétiser le plan de mise en œuvre de la stratégie du Yukon sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Des marches aux actions de sensibilisation, en passant par les changements de politique. Tout cela nous amène un peu plus près de notre vision commune. Des communautés saines, sécuritaires et sans violence, où les femmes et les filles autochtones et les Yukonais bispirituels sont respectés, valorisés et traités avec justice et dignité. Écrit la ministre. C'était des centaines de personnes rassemblées pour la journée de la robe rouge. Un texte de Sarah Xenos avec des informations d'Avery Zingle paru le 6 mai 2025 dans Espaces autochtones.
Une quatrième coroner recommande d'abaisser la limite légale d'alcoolémie, un texte de la presse canadienne paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Bernard D'Aragon, un motocycliste de 64 ans, tué en juin 2020 par un automobiliste avec les facultés affaiblies, serait probablement encore vivant si le Québec avait adopté, comme l'ensemble des autres provinces canadiennes, des sanctions administratives pour les automobilistes qui conduisent avec un taux d'alcool dans le sang qui se situe entre 0,05 et 0,08. C'est le constat auquel en vient la coroner Geneviève Thériault à l'issue de son enquête sur le décès du sexagénaire, dans un rapport qui ne pouvait être rendu public avant mardi, le 22 avril 2025, en raison de procédures judiciaires en cours. Il s'agissait, ce 4 juin 2020, de la première sortie de l'année pour Bernard d'Aragon, un motocycliste expérimenté qui avait sorti sa BMW Touring K 1600 sur la route 148 à Lochaber, en Outaouais, alors que les mesures de confinement commençaient à être partiellement levées. Il n'avait toutefois pas réussi à éviter le lourd Jeep Wrangler qui s'était présenté dans sa voie en sens inverse, au sortir d'une légère courbe un peu avant 10 heures. Les deux véhicules roulaient à environ 90 km/h lorsqu'ils se sont percutés de front. Intercepté, mais laissé sur la route. Or, le conducteur du VUS fautif avait été intercepté environ une heure plus tôt par un patrouilleur de la Sûreté du Québec à la suite d'un appel rapportant sa conduite erratique sur l'autoroute 50 près de Grenville. Le policier avait remarqué une odeur d'alcool sur son haleine et lui avait fait passer un alcotest dont le résultat indiquait un taux situé quelque part dans la fourchette de 50 mg par 100 ml, 0,05, à 99 mg par 100 ml, 0,099. Puisque le résultat du test ne permettait pas de confirmer que le seuil légal pour la conduite d'un véhicule à moteur fixé à moins de 80 mg par 100 ml était dépassé, les patrouilleurs ont informé le conducteur qu'il pouvait se trouver au-dessus de la limite permise et que s'il était impliqué dans un accident, il pouvait être accusé de conduite avec les facultés affaiblies, écrit la coroner Thériault. Les patrouilleurs lui avaient alors fortement suggéré d'appeler un ami ou de s'arrêter dans un restaurant, mais l'analyse du GPS du véhicule démontre qu'il ne s'était jamais arrêté. Moins d'une heure plus tard, au sortir d'une légère courbe vers la droite, le Jeep était déporté dans la voie en sens inverse sans que les reconstitutionnistes ne trouvent de tentative de freinage ou de braquage pour corriger sa direction et provoquer le face-à-face avec M. d'Aragon, qui est décédé sur le coup. Le véhicule aurait pu être saisi. La conclusion de la coroner Thériault est sans appel. Si des sanctions administratives comparables à celles existant ailleurs au pays avaient été en vigueur au Québec en 2020, les policiers auraient pu procéder à la suspension immédiate du permis de conduire et à la saisie du véhicule lors de l'interception, ce qui aurait permis d'éviter l'accident. Maître Thériault rappelle que le Québec est désormais isolé sur la question des sanctions administratives car il semble que toutes les provinces et territoires du Canada ont adopté de telles sanctions afin de réduire le nombre de décès et d'accidents liés à la conduite avec les facultés affaiblies. Elle recommande donc à la Société de l'assurance automobile du Québec qu'elle fasse les démarches nécessaires pour que soit modifié le code de la sécurité routière afin que des sanctions administratives immédiates soient imposées aux conducteurs présentant une alcoolémie d'au moins 50 mg par 100 ml et au ministère des Transports d'appuyer cette démarche de la SAC. Les coronaires ignorés quatre fois. C'est la quatrième fois en moins de 2 ans que ce genre de recommandation est faite par des coronaires. Geneviève Thériault ayant elle-même déjà invité dans un rapport de juillet 2024 les autorités gouvernementales à réduire le taux légal d'alcool dans le sang de 0,08 à 0,05 en proposant d'instaurer des sanctions administratives, donc non criminelles, aux automobilistes pris avec un taux entre 0,05 et 0,08. Deux de ses collègues, les coronaires Julia Blondin et Yvon Garneau, ont également fait cette recommandation dans des rapports déposés, respectivement, en mai 2023 et en octobre 2023. Une recommandation dans le même sens est également venue de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Interpellé à plusieurs reprises sur cette question, le gouvernement caquiste a systématiquement refusé d'envisager cette possibilité. C'était « Une quatrième coroner recommande d'abaisser la limite légale d'alcoolémie », un texte de la presse canadienne paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Les micro-ondes sont-ils dangereux pour la santé? Un texte de Morgane Petit, paru le 26 avril 2025 dans Science et Vie. Les ondes des micro-ondes détractent-elles notre cerveau et donc notre santé? Souffrons-nous plus de dépression et de maux de tête? Les micro-ondes donnent-ils le cancer? Les scientifiques vous répondent et vous rassurent. Ne jetez pas votre appareil par la fenêtre. Les micro-ondes trônent dans notre cuisine. Ce sont en effet de petits électroménagers bien pratiques pour réchauffer rapidement nos aliments. Cependant, depuis quelques années, ils ont moins la cote. Pire, on les montre du doigt car ils pourraient avoir des effets nocifs sur notre santé et même provoquer des cancers. Alors qu'en est-il? Faut-il se débarrasser sur le champ de ces engins démoniaques? Rassurez-vous, les scientifiques se sont penchés sur la question et ont montré que ces appareils ne sont pas nocifs, à condition de respecter les conseils d'utilisation. Tout d'abord, que sont les micro-ondes? Les micro-ondes, ou fours à micro-ondes, sont des appareils que l'on retrouve très souvent dans les cuisines. Ils permettent de chauffer et cuire les aliments de manière rapide et efficace. Pour cela, ces appareils utilisent des ondes électromagnétiques. Ce sont elles qui vont chauffer les aliments. Elles sont semblables aux ondes radio, mais ont une fréquence beaucoup plus élevée, autour de 2,45 GHz. Cette fréquence est idéale pour chauffer les différents composants des aliments, à savoir l'eau, les graisses ou les sucres. Ces micro-ondes sont produites grâce à la conversion de l'énergie électrique – votre micro-onde doit être branché à une prise électrique pour fonctionner – au cœur d'un élément bien particulier de l'appareil, le magnétron. Les ondes sont ensuite guidées vers un guide d'ondes depuis le magnétron vers la cavité du four. C'est dans cette dernière que l'on place les aliments à chauffer ou à cuire. Ce guide d'ondes agit comme un tunnel. Il permet aux ondes de se déplacer efficacement, sans interférence et donc sans perte, jusqu'à la cavité. Les ondes vont principalement interagir avec les molécules d'eau qu'elles rencontrent. Elles vont faire vibrer très rapidement ces molécules qui se bousculent entre elles. Ces bousculades et autres frottements vont créer de la chaleur et ainsi chauffer les aliments. Ce qui pose question avec les micro-ondes, ce sont justement ces ondes. Et si elles s'échappaient de l'appareil, pourraient-elles présenter un risque pour notre santé? Et qu'en est-il des aliments qu'elles chauffent? Deviennent-ils toxiques? Les micro-ondes et notre santé, un duo perdant? Déjà, demandons-nous si les micro-ondes peuvent provoquer des cancers. Car oui, on entend souvent que les ondes, comme les rayons X, sont dangereuses pour notre santé. Certes, mais les ondes ne sont pas toutes pareilles. Il en existe de différents types. Les ondes de nos appareils de cuisson sont dites non-ionisantes. Cela signifie qu'aucun électron n'est enlevé ou ajouté aux atomes des objets avec lesquels elles interagissent, c'est-à-dire nos aliments et, beaucoup plus rarement, nous. Il n'y a donc aucune onde radioactive qui est émise. Ces rayonnements non ionisants n'endommagent donc pas les aliments. Ils vont simplement les réchauffer. Les ondes des micro-ondes appartiennent à la même catégorie que celles des téléphones portables et du Wi-Fi. Si les micro-ondes étaient toxiques, le Wi-Fi contaminerait donc aussi tous les habitants de la maison ainsi que les aliments autour. Or, les constructeurs des différents appareils doivent respecter des normes très strictes quant au fonctionnement des ondes, que ce soit dans nos téléphones ou dans nos micro-ondes. Et, à ce jour, aucune étude scientifique ne met en évidence de lien de causalité entre l'exposition aux ondes des micro-ondes ou des communications mobiles et des effets sur la santé. En revanche, il faut faire attention aux micro-ondes défectueux qui, eux, peuvent être dangereux. Un appareil cassé, ouvert, peut potentiellement provoquer des brûlures et des lésions. Globalement, il faut donc veiller à posséder un appareil en bon état de fonctionnement et, bien sûr, respecter les conseils d'utilisation. Qu'en est-il des impacts sur notre nourriture? On l'a vu, les micro-ondes agissent principalement sur les molécules d'eau des aliments. La chaleur induite dépassera rarement les 100 degrés Celsius dans le cadre d'une utilisation normale de l'appareil. Cela limite donc l'apparition d'éléments cancérogènes, contrairement à d'autres modes de cuisson, comme les viandes grillées, par exemple. Il est par contre recommandé de respecter scrupuleusement la puissance et la durée de cuisson indiquées sur les emballages de certains aliments allant au micro-ondes. Cela évite la migration de substances potentiellement toxiques dans les aliments. Très bien, mais les micro-ondes ne risquent-ils pas de dégrader les qualités nutritionnelles des aliments? Les études révèlent qu'au contraire, les nutriments se conservent plutôt bien avec ce mode de cuisson. Les vitamines hydrosolubles sont préservées et leurs caractéristiques sont comparables à une cuisson vapeur. C'est la même chose pour les minéraux. Certaines études indiquent également qu'il vaut mieux privilégier une cuisson au four à micro-ondes pour préserver les antioxydants des légumes. Quant aux matières grasses et aux sucres, l'appareil a peu d'impact sur eux. De plus, le temps de cuisson des aliments au micro-ondes est beaucoup plus rapide que pour d'autres méthodes de cuisson. Cela dégrade moins les protéines. Attention aux microplastiques. Finalement, le plus grand danger que revêt les micro-ondes reste surtout dans les contenants utilisés pour chauffer les aliments. En effet, de plus en plus d'études s'inquiètent des plats en plastique que l'on met dans les appareils. Les contenants plastiques, lorsqu'on les chauffe, risquent de libérer beaucoup de microplastiques. Or, on sait maintenant que ces composants ont de nombreux impacts sur notre organisme et notre santé. Lorsque l'on se sert des micro-ondes, il vaut donc mieux utiliser des contenants en verre ou en céramique. Veillez également à bien respecter les consignes présentes sur les emballages des produits micro-ondables. C'était « Les micro-ondes sont-ils dangereux pour la santé? » Un texte de Morgane Petit, paru le 26 avril 2025 dans « Science et vie ».